Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. On va vous parler de jeux vidéo. Quelle surprise! On va passer un petit peu de temps sur le Game Pass Ultimate, GOG Galaxy 2. On a plein d'autres petites news à parler, dont on va vous parler, des jeux auxquels on a joué. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir. Bon, d'abord, je vais me présenter quand même. Je suis Patrick Béja et je reçois Mallory Delicourt. Comment ça va, Mallory? Bonjour.
Bonjour, Patrick. Bonjour, tout le monde.
Tu es en forme?
Ça va pas mal. Ouais, ça va. On récupère un petit peu la canicule.
Ouais. Écoute, chez moi en Finlande, ça va. Il n'y a pas trop de chaleur excessive.
Point, ouais.
Par contre, moi, j'essaye de récupérer de mon dos pété. Je me suis explosé le dos hier et littéralement, j'arrivais pas à marcher pendant une bonne journée. Mais je sors de chez le kiné ce matin et j'espère pouvoir tenir debout parce que je fais l'émission debout pendant une demi-heure au moins. On verra comment ça se passe. J'ai failli annuler l'émission, donc merci de ta flexibilité, Mallory.
Je t'en prie.
On a pu décaler un petit peu l'enregistrement. Mais bon, le show must go on, comme on dit dans notre industrie de podcast. Et donc, le show goes on, mais j'espère que les auditeurs m'excuseront si je ne suis pas à 100%. Selon mon estimation, je suis à 84%. On verra si ça suffira. Oui, c'est quand même, tu vois, si t'as 84 sur 100 comme note de jeu vidéo, c'est pas mal. D'habitude, je suis à 100.
Ah,
ouais.
Ah bah là, les bonus, ils tombent à 84 sur les tapis.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, écoute, on est encore dans le long tail de l'E3. Il y a quelques sujets dont je voudrais parler qui ont fait partie de l'E3 et je vais commencer avec un truc qui a été, je pense, le gros morceau de l'E3 qui était le Game Pass Ultimate et le Game Pass en général parce que même s'il existait depuis longtemps, là il y a eu un deal tellement incroyable avec le Game Pass Ultimate que je pense de nombreux joueurs qui nous écoutent se sont laissés convaincre et j'inclus parmi ces joueurs moi. Je ne sais plus si j'en avais parlé dans l'épisode précédent, l'astuce pour avoir le Game Pass pendant une longue période, assez bon marché. Est-ce que tu en as profité, toi, ou pas ?
Moi, j'ai profité de l'offre à 1€ sur PC.
Ah, donc...
Pendant la bêta sur PC qui était à 1€.
Alors, écoute, il y avait une autre offre. Si vous n'êtes pas encore abonné au Game Pass Ultimate, on le rappelle, hein, c'est l'offre qui réunit Game Pass PC, Game Pass Xbox et Xbox Live. Donc, c'est un abonnement. Et en fait, ils avaient fait un truc. Peut-être que j'en ai parlé à l'épisode précédent. Je suis désolé si je me répète pour ceux qui ont déjà entendu. Mais ceux qui ne l'ont pas déjà entendu vont être contents de l'astuce ou pas très contents s'ils sont déjà abonnés. En fait, quand tu t'abonnes pour la première fois au Game Pass Ultimate, eh ben, il te prend tous les mois de tous les services que tu avais chez eux et ils les transfèrent en mois de Game Pass Ultimate, y compris les mois de Xbox Live Gold qui sont beaucoup moins chers. Donc moi, ce que j'ai fait, comme pas mal d'auditeurs et des gens qui sont dans le Slack du Rendez-vous Tech notamment, qui ont fait le post-E3 discussion qui était l'épisode précédent, que vous avez peut-être entendu, j'ai pris genre deux ans et demi d'abonnement sur le Xbox Live Gold et puis j'ai activé mon Game Pass Ultimate. Et donc, ça me fait, pour une somme qui est assez modique finalement, genre 4€ par mois, 2 ans mon prochain renouvellement de Game Pass Ultimate, c'est genre 2022, quoi. Et ça, pas mal, hein, tu vois. Donc, malheureusement, ça marche pas si tu as déjà le Game Pass Ultimate. Tu peux le faire que la première fois. Mais j'ai trouvé ça très malin parce que je pense que c'est quelque chose qu'ils ont fait consciemment chez Microsoft et qu'ils ont... Ça encourage les gens à s'abonner, à rentrer dans leur écosystème pour une longue période, une période qui va au-delà du lancement de la prochaine console. Et si jamais on a cet abonnement et on a le choix entre la Xbox, la New Xbox et la PlayStation 5, eh ben le fait d'avoir déjà le Game Pass Ultimate sur la Xbox pendant 2-3 ans, je pense que ça va convaincre des gens d'aller du côté de Microsoft plutôt que du côté de Sony. À moins que Sony fasse la même chose.
Mais... D'autant que Halo Infinite sera compris dans le Game Pass au lancement et que du coup, quelqu'un qui va récupérer la Xbox 2, je ne sais pas comment
voilà,
il
va. Voilà, oui, c'est comme ça que je l'appelle aussi.
C'est
ouais.
La Scarlett.
Moi, je pense qu'elle s'appellera Xbox tout court. Mais il y a des chances.
Et du coup, quelqu'un qui va juste se contenter d'acheter la console dont on ne connaît pas encore le prix. Donc finalement, c'est un moyen de se dire bon, j'ai juste la machine à acheter, puis j'ai le catalogue tout de suite avec en lancement le nouveau Halo. Donc c'est très, très propre quand même.
Et je pense d'ailleurs que les manettes seront compatibles aussi, ne serait-ce que parce qu'ils ont lancé la Xbox Controller Elite 2 et ils ne vont pas remettre une nouvelle manette qui ne soit pas compatible en tout cas.
Non, c'est prévu déjà que le matériel Xbox One soit compatible avec la prochaine génération. Donc ça, c'est très pratique niveau matériel pour ceux qui l'ont.
Ouais, je crois qu'ils n'ont pas été 100% explicites, mais ils l'ont indiqué à demi-mot, on va dire. Mais, et du coup, je vais faire un petit détour par le Game Pass. Et pour dire que vraiment, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu sceptiques sur ces modèles d'abonnement. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai écrit un long article qui est en anglais sur le streaming, les abonnements et les manettes compatibles avec les prochains appareils Apple et comment tout ça se réunit pour former une image assez intéressante de ce que va devenir le jeu vidéo dans les années à venir. Je mettrai un lien dans les notes de l'émission si vous voulez le lire. C'est un article un petit peu long, mais ça réunit un petit peu des éléments dont j'avais parlé ici et là dans l'émission ou ailleurs, et c'est une sorte d'analyse. Allez le lire si ça vous intéresse, mais je pense que c'est l'un des éléments, c'est le fait que le Game Pass Ultimate, c'est cool. Et on savait tous que c'était quelque chose de cool, le Game Pass en général, mais le fait de l'avoir pris enfin, d'avoir un abonnement, je ne sais plus qui disait ça, c'est un truc que j'ai lu sur Twitter que j'ai trouvé très très juste, je ne veux pas donner de nom au cas où je me trompe, mais c'était un journaliste sur Twitter qui disait que le Game Pass Ultimate, il l'aimait déjà intellectuellement avant, mais que maintenant qu'il l'avait, il l'aimait émotionnellement. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, je savais que c'était cool le Game Pass, mais là, le fait de l'avoir, ça m'a vraiment fait tomber amoureux du truc. J'ai essayé des tonnes de jeux que j'avais dans mon backlog, que j'avais pas vraiment... C'est le genre de jeu, en fait, où on se dit, c'est un jeu du moment, c'est un jeu qui pourrait m'intéresser, mais je sais que je risque de ne pas vraiment y jouer très très longtemps, donc j'ai pas vraiment envie de le payer. Et parmi tous ces jeux, peut-être qu'il y en aura que je vais découvrir et que je vais vraiment aimer, et auxquels je vais jouer un petit peu plus longtemps. La plupart, ça va être des jeux auxquels je vais jouer une demi-heure, une heure, voilà. Mais au moins, ça me permettra de savoir un petit peu de quoi il s'agit. Mais il y a peut-être des pépites que je vais découvrir, alors que j'aurais pas pensé les aimer autant. Et donc, je me suis mis à jouer, à essayer plein de jeux. J'ai essayé notamment Void Bastards, qui est intéressant. Astroneer, c'est pas du tout mon truc. Outer Wilds, bon, celui-là, je l'avais acheté à bon marché sur l'Epic Game Store. Et j'ai essayé... un peu, je dois être la seule personne au monde, tout le monde adore ce jeu, et je dois être la seule personne au monde à qui ça parle pas vraiment, mais j'ai joué qu'une heure ou une heure ou deux, donc peut-être qu'il y a des trucs qui se passent après qui sont plus convaincants, donc me dites rien, me spoilez pas, parce que je vais essayer de continuer à y jouer tellement
que tout le monde. J'en suis qu'à la première heure aussi.
Et qu'est-ce que t'en penses sur la première heure ?
J'ai eu beaucoup de mal à prendre en main le vaisseau.
C'est vraiment dur à contrôler. Ouais.
C'était très difficile, mais c'est un peu cryptique pour l'instant, donc j'ai un peu du mal à saisir où le jeu m'emmène, mais il faudrait que je pousse un peu plus.
Ça fait partie de l'attrait, je crois, cet aspect exploration. Ouais.
Là, le principe de la boucle qui nous ramène toujours et qui nous oblige à repartir à chaque fois. Ça, je l'ai vu très vite, puisque je suis mort très vite, bêtement.
Pareil, oui. Mais je comprends l'aspect très charmant du design avec ces vaisseaux en bois. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Outer Wilds, c'est un jeu, en gros, où on va aller explorer un système solaire, mais en version presque miniature, on se déplace d'une planète à l'autre en quelques minutes. Et puis, il y a un design vraiment, les vaisseaux sont en bois, c'est d'autres personnes qu'on va rencontrer sont dans des... Ils sont tranquillement installés en chaise longue sur une autre planète. Enfin, c'est... même si elle n'a pas d'atmosphère, enfin, c'est un petit peu, c'est charmant. Mais moi, j'ai l'impression que ça ne me parle pas trop, donc... Bref, je plaisantais dans l'émission anglaise que c'est peut-être mon Nier Automata de l'année où tout le monde adore Nier Automata et se pâme devant. Et moi, ça ne m'a pas du tout parlé. Mais c'est un petit peu différent parce que Nier Automata, sans repartir dans le débat, je ne l'avais activement pas aimé. Là, Outer Wilds, c'est juste que je vois et je me dis, mais je ne comprends pas, ça ne me parle pas. Mais...
Non, mais complètement pareil, Nier Automata, je suis passé complètement à côté et j'en discutais avec Romain Toutain qui est directeur technique chez Square Enix à Londres et qui est un fan absolu de ce jeu-là et je l'ai vu le faire en stream sur sa chaîne Twitch et j'ai pas compris pourquoi et je sais et je me demande pourquoi je ne comprends pas ce jeu alors que tout le monde me dit que c'est absolument génial. Et...
D'ailleurs, j'ai pas mentionné, mais tu es chez jeuxvideo.com. Je l'ai même pas dit,
oui.
Mais
ouais. je m'occupe d'une partie des news.
C'est ça. Depuis quelques temps déjà.
Oui, presque 2 ans maintenant.
Presque 2 ans. Et on te file comme t'es un petit jeune nouveau, on te file tous les meilleurs jeux à tester, c'est ça?
Oui. Exactement. Oui, voilà. Bien sûr. Du Agents of Mayhem. Mais j'ai eu le droit à The Forest et à With the Revolution récemment, et c'était des jeux très intéressants.
Ok.
Je suis très content.
Mais bon, donc ça c'est les jeux que j'ai un petit peu essayés. Il y a Ori and the Blind Forest d'ailleurs que j'ai testé aussi. Je suis pas allé très loin parce que c'est vraiment un Metroidvania qu'on comprend. Tout de suite et il y a le nouveau qui va arriver dans pas trop longtemps donc je me suis pas embarqué dans un énième Metroidvania de plus mais c'est vraiment très beau. Toi je crois que tu y es arrivé aussi, oui. C'est le truc qui permet de faire les backlogs en fait,
complètement, le Game Pass. Des trucs qu'on avait laissé de côté, j'ai toujours vu les bandes annonces, j'ai toujours trouvé ça magnifique et puis j'ai jamais pris le temps de le faire. Et là, j'ai fait pareil, j'ai fait 1h30, 2h sur le jeu. Alors, dès le début, l'ambiance est bon. On va bien, mais on voit moins bien après l'introduction.
Ouais, un petit peu.
Mais c'est absolument magnifique. Et c'est surtout, en fait, la nouvelle présentation de la suite And the Will of the Wisps.
Ah, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là.
Et qui a l'air très beau. Je me suis dit, allez, en plus, le Game Pass venait d'arriver sur PC. Je me suis dit, bon, il faut faire le premier. C'est important.
C'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec Gears of War 4. Je suis très curieux de voir ce que va donner le 5. Je sais que le 4 n'était pas considéré comme l'un des meilleurs jeux de l'histoire, pour être un petit peu gentil. Et en fait, étonnamment, je me suis lancé dedans et c'était, j'en plaisantais sur Twitter, je disais c'est genre du plaisir en recherche archéologique de jeux vidéo parce que le design est tellement figé sur ce qu'était Gears of War pendant des années. Et vraiment, le 4, il est sorti genre en 2015. Il aurait pu sortir en 2008, ça aurait été pareil. Mais malgré ça, je me suis un peu attaché au personnage. Il y avait la perspective de se dire, je vais voir ce qui s'est passé avant de commencer le 5, puisqu'il sera dans le Game Pass. On dit ça nous permet de faire le backlog, mais pas que. Il sort en septembre, je crois, le 5. Et je pourrais y jouer avec le Game Pass. Mais donc je me suis pris dedans et je l'ai fait complètement, c'est une dizaine d'heures de jeu. Bon, par contre il s'arrête, mais c'est incroyable, t'as l'impression qu'il s'arrête au milieu d'une phrase quoi. Moi je me disais il y a des trucs qui vont se passer, on va comprendre un petit peu comment est-ce que Kate, l'une des héroïnes, arrive là où elle est. En fait non, rien du tout quoi, ça s'arrête, c'est genre... Et donc ce pendentif il est très... The end, et quasiment... Mais j'ai été très surpris et donc ça a contribué au plaisir du Game Pass. Un autre truc, c'est Onrush, qui est un jeu qui est sorti l'année dernière, dont les gens parlaient. C'est vraiment ce genre de truc, genre le jeu du moment. Et tu te souviens de Onrush? Il est sorti il y a un an, un truc comme
oui,
ça.
Oui, je m'en souviens très bien parce que chez nous, c'était Epionzilla qui avait fait le test et qui lui avait collé un 9 quand beaucoup de gens lui avaient mis une bonne note et du coup, ça avait fait beaucoup parler.
Écoute.
du coup, je me suis pas trop aventuré dessus, mais
c'est le genre de jeu. Franchement, c'est un jeu qui est trop. C'est pas qu'il est pas fini, c'est qu'il est un petit peu trop. Il y a que le squelette du jeu, et on sent que l'équipe était trop petite pour aller plus loin que ça, pour le rendre un petit peu plus, consistant. Et puis on a vu, ils ont vu Overwatch et ils se sont dit bon bah pour faire de l'argent on va mettre des animations, des machins comme ça, sauf que ils avaient pas un bon animateur, ou alors ils devaient faire les 600 animations tout seul, ça n'a aucun intérêt, c'est hyper moche. Mais par contre le jeu en lui-même, c'est franchement l'un des jeux les plus originaux que j'ai vu depuis très longtemps. C'est pas du tout un jeu de course, c'est un jeu qui utilise des mécaniques de course pour faire, je ne sais pas, comme un jeu de combat presque. C'est-à-dire qu'on tourne en rond sur un circuit, il y a plein de circuits différents, et on a un boost, et on a un super boost qu'on peut utiliser quand on a utilisé assez de boost. Et il y a des ennemis qui sont une équipe contre une équipe, donc il y a 6 contre 6, et il y a aussi des... c'est des creeps, en fait, de MOBA qu'on peut pousser ou détruire pour ajouter du boost. Et il y a plein de règles différentes, il y a plein de types de matchs. Alors, dans certains, il faut utiliser telle quantité de boost avant l'autre équipe. Dans certains, il faut passer les étapes et ça vous rajoute du temps. Et le premier qui a, ça rajoute genre 3 secondes à chaque fois qu'on passe des drapeaux. Le premier qui arrive à 0 a perdu. Enfin, c'est vraiment des modes hyper originaux. Et c'est un jeu, mais c'est la quintessence du jeu d'arcade fun qui est vraiment juste un jeu vidéo. C'est genre, tu mets définition du jeu vidéo et tu montes ce jeu, c'est t'es pile dedans quoi. C'est jeu arcade fun, sympa, bien foutu, original. Je trouve pas qu'il a été mal jugé parce que les comment dire, c'est pas que les gens sont passés à côté parce qu'il a pas eu assez de pub. Il a pas, c'est pas qu'il mérite pas l'accueil, on va dire tiède qu'il a reçu, mais c'est juste que s'il faut le payer, personne va le payer. Il aurait dû sortir en free to play en fait. Et oui. Et quand tu y as accès, bah dans le cadre du Game Pass par exemple, c'est vraiment un jeu fun et un truc que tu peux essayer qui est sympa quoi.
Bah, ça donc, me fait penser un peu à ce qu'était Rocket League avant d'être Rocket League, c'est-à-dire le sort de Battle Car, je ne sais plus quel nom il avait, qui était déjà le principe de Rocket League, mais où il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. La physique,
le jeu d'avant, tu veux dire
le jeu d'avant.
Ouais.
Et puis qui est devenu Rocket League, qui est arrivé gratos dans le PlayStation Plus, et puis Rocket League était parti. Puis maintenant, passer à côté de Rocket League ou n'en avoir jamais vu, c'est très compliqué maintenant. Donc je souhaite que Onrush revienne dans une sorte de version Rocket League. Et le même destin qui puisse revenir.
C'est exactement la réflexion que je me suis faite. Et c'est quelque chose de tout à fait possible. Moi, je me suis vraiment dit, Rocket League... Enfin, c'est exactement la même formule. Et j'ai pensé à ce jeu, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais ce jeu d'avant. Et j'adorerais que le studio fasse du coup une nouvelle version d'Unrush qui soit un petit peu plus travaillée et qui soit un peu mieux lancée peut-être. Mais...
Non, puis ils ont les moyens, Codemasters. Ils peuvent, s'ils décident de reprendre la formule et se dire, on refait et on refait comme on voulait. Et puis, ça devrait être faisable.
Ça serait pas mal. Bon, donc voilà pour juste un petit topo sur le Game Pass que j'ai vraiment apprécié. Je voulais mentionner aussi le fait qu'on a entendu la rumeur selon laquelle la prochaine console, la Scarlett justement de Microsoft, ne serait plus deux consoles mais une seule. On avait entendu parler de l'idée qu'il y aurait une console chère, une console moins chère, qui était peut-être même juste une streaming box. Mais du coup... Moi, ma théorie, c'était que peut-être que les Xbox One actuels pourraient se transformer en streaming box, donc ils n'ont pas besoin d'en vendre une autre. Enfin, ils se reconcentrent sur une box plutôt qu'une autre, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'en a pas énormément entendu parler à l'E3, c'est peut-être un facteur qui joue. Vas-y.
Oui, et puis ça ne me paraît pas incohérent, dans la mesure où, comme les deux consoles qui vont se concurrencer, qui sont la PS5 et celle-là, vont avoir sensiblement les mêmes specs, proposer au studio de développement deux machines dont une qui sera légèrement inférieure, ça permettrait pas d'exploiter tout de suite la puissance de celle qui est haut de gamme. Donc en fait, je pense que les studios ont fait des retours en disant mais si on doit développer sur les deux, on va avoir des soucis, la version Scarlett sera pas au niveau. Et ils se sont dit si on veut se positionner alors que de l'autre côté on propose une offre dématérialisée, proposer deux machines hardware, ça n'a plus de sens.
Ouais. Je suis d'accord.
Du coup, en garder une avec le service à côté plutôt que deux, plus le service, le Game Pass PC, le Game Pass Xbox, ce genre de choses.
Ouais, c'est très possible que ça soit cette réflexion. Même si, comme je dis, la version streaming seulement aurait pu pallier à ce défaut, plus ou moins, parce que du coup, c'était pas une autre spec. Mais bon, on sait pas, on verra. Et l'autre truc que je voulais mentionner, c'est une théorie, encore une théorie, j'en ai tout le temps, des théories fumeuses, c'est celle sur la stratégie de Sony. Je me dis que, je pense qu'ils vont, pour répondre à l'idée du streaming, à l'idée des abonnements, se concentrer sur la sortie de Death Stranding à la fin de l'année, puis The Last of Us peut-être en début d'année prochaine, et à l'E3 2020, ils vont relancer le PlayStation Now en faisant en sorte qu'il inclut beaucoup plus de jeux first party, dont The Last of Us, Ghost of Tsushima, tout ça, genre comme font tous les autres services d'abonnement, c'est-à-dire tous les jeux first party du studio sont inclus, donc ils vont pouvoir vendre Death Stranding et The Last of Us à tous ceux qui veulent l'acheter tout de suite, mais après ils s'en servent comme d'une force pour leur service à venir. Et surtout, Ghost of Tsushima, qui sortira, je pense, à l'automne prochain, sera inclus dans ce service, donc ça donnera une énorme motivation aux gens pour aller s'abonner. Et comme c'est le cas aujourd'hui avec le PlayStation Now, moi-même je l'avais oublié, mais on pourra installer les jeux ou les streamer, un petit peu comme xCloud finalement, qui est censé arriver bientôt en version bêta du côté de Microsoft. Et ça pourrait donner à Sony une force énorme, parce que s'ils incluent tous leurs jeux dans ce service, il y a beaucoup de gens qui vont s'abonner, et du coup, ça leur permet de répondre à un Game Pass Ultimate qui est hyper motivant pour les joueurs, comme on vient d'en parler, et donc peut-être faire que les gens s'abonnent pour 1 an, 2 ans, jusqu'à la sortie de la prochaine console, et donc peut-être avec une offre spéciale ou une offre comparable à ce qui s'est passé avec le Game Pass Ultimate, et donc faire répondre à Microsoft qui offre ce truc pour les core gamers, dont beaucoup seraient acquis à la prochaine Xbox. Du coup, les gens auraient peut-être les deux services d'abonnement et seraient pas désavantagés s'ils souhaitent aller du côté de la console de Sony plutôt que de celle de Microsoft. Moi, c'est ma théorie, mais bon.
C'est pas impossible du tout, dans la mesure où Sony était en avance sur le streaming avec leur achat de Gaikai. Je crois que c'est 2013, si je dis pas de bêtises, ils avaient racheté le service de streaming.
C'est ça.
Et ils en ont pas fait grand chose, enfin pour attirer le public, ils ont pas fait énormément de promotions, d'offres ou de facilités d'utilisation. Il était un peu dans l'ombre du reste des services PlayStation. Et du coup, là, je pense qu'ils peuvent clairement s'en servir pour faire quelque chose d'intéressant à la manière d'un Game Pass. Maintenant, je ne suis pas sûr que les jeux dont tu as parlé, Ghost of Tsushima, Last of Us, intègrent ce système-là, parce que je vois bien ces jeux-là faire la transition. Le premier, The Last of Us, avait été un jeu PS3, puis tout de suite avec la PS4, il était arrivé en version remaster sur la console. Donc je vois bien faire le pont avec les deux, d'autant que la PS5 devrait être rétro-compatible.
Bah, c'est
donc
ça,
sortir
le truc.
Juste avant l'arrivée, proposer pour les PS4 Pro, ceux qui ne veulent pas encore passer à la nouvelle génération, et à la PS5, il y a des chances que ce soit encore, ils soient encore très poussés sur le côté physique, mais que le service soit également remis au goût du jour à ce moment-là.
Bah, moi, ce que je pense, c'est que le PS Now n'a pas été poussé pour plusieurs raisons. D'une part, ils avaient l'infrastructure pour le streaming n'est pas encore suffisante dans le monde. D'autre part, ils ne voulaient pas inclure tous leurs derniers jeux first party dans le PS Now, parce qu'évidemment, ils préfèrent nous les vendre un à un et en vendre des millions. Ils avaient tellement la force, l'avantage sur cette génération, qu'ils avaient et les exclusives super fortes sur cette génération, qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de les intégrer au PS Now. Ça les aurait desservis. Mais sur la prochaine génération et avec les services comme le Game Pass, je crois qu'ils vont être obligés de le faire, parce que sinon ils vont se retrouver désavantagés. C'est pour ça que je pense qu'ils vont attendre justement de nous vendre Death Stranding et The Last of Us 2, donc de les vendre. Il sera compatible sur PS5, qui est rétro-compatible. Donc là, ça pose la question aussi. Est-ce qu'on peut faire un remaster ou un remake d'un jeu qui est hyper facilement rétro-compatible de toute façon? Sur PS3, PS4, c'était pas le cas. Et du coup, s'il est rétro-compatible, est-ce que tu le revends au prix plein pour les gens qui l'ont pas encore acheté ou même ceux qui veulent le racheter? C'est possible. Mais je crois que le fait de ne pas avoir un service d'abonnement compétitif contre tous les autres services d'abonnement, c'est trop risqué. Et je ne sais pas si Sony prendra le risque. Peut-être, hein, peut-être qu'ils vont se dire, on s'en fout, on continue à vous vendre tel et tel et tel jeu. Mais c'est une telle occasion pour moi, Ghost of Tsushima, le dernier gros jeu qu'ils ont sur cette génération, de l'inclure dans le service et de faire en sorte que tout le monde s'abonne avec peut-être, 18 mois d'abonnement ou même pas un an d'abonnement l'année prochaine, c'est-à-dire à la veille de la sortie des consoles, peut-être qu'il sortira, je ne sais pas, au printemps ou en été, il vous file un an d'abonnement à un prix imbattable, et donc du coup vous êtes emballés dans la prochaine génération du côté de Sony aussi, comme on l'est du côté de Microsoft avec le Game Pass Ultimate auquel beaucoup d'entre nous sont abonnés pour un an, deux ans, trois ans déjà. Mais
je pense que c'est pour ça qu'ils ne sont pas pointés à l'E3 et ils ont expliqué que c'est parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à montrer. Moi, je pense qu'ils attendaient largement de savoir ce qu'allait faire Microsoft, qui lui-même a senti le coup venir et n'en a pas trop dit sur la prochaine génération. Donc, ils se regardent tous un petit peu en chien de faïence en ce moment en attendant de savoir qui dégaine. Finalement, Microsoft a dégainé sur son Game Pass, pas encore sur la machine complètement. Mais je pense que Sony attendait de voir la réaction du marché à une proposition de ce genre-là. Et que du coup, ils étaient un peu plus prudents. Ils se disaient, on est en position de force, mais ça fait 3 ans que Microsoft a pris de l'avance pour préparer la prochaine génération sur nous. Donc le plus sage était d'attendre. Et puis en plus, ils vont pouvoir contre-attaquer très facilement, puisque Microsoft a mis les pieds dedans en disant, en fin d'année prochaine, la Scarlett est là. Donc ils vont pouvoir attendre le pricing, ils vont pouvoir voir et réagir en fonction, parce qu'ils savent très bien que de plus en plus de studios et de gens râle un petit peu sur la politique un petit peu endormie de Sony maintenant qu'ils sont leaders sur cette génération. Ils se disent, nous on est tranquille, on est devant, on n'a pas grand chose à changer. Pendant cela, Microsoft y cravache. Et ils se disent, c'est peut-être le moment d'attendre un petit peu, de voir ce que va faire le concurrent avant de réagir pour se caler sur une offre qui va être concurrentielle par rapport à Microsoft.
Mais c'est exactement ça. Ils ont besoin de se caler sur une offre concurrentielle et Microsoft fait tellement fort sur ces derniers mois avec l'avenir, avec tous les studios qu'ils ont rachetés, etc. Je pense qu'ils forcent la main de Sony. Évidemment, si Sony avait le choix, ils ont tellement de studios first party, ils continueraient à nous les vendre un à un. Ça serait plus avantageux pour eux. Mais je ne sais pas si ça va être possible. Nintendo a dit qu'il gardait un œil sur le streaming de jeux vidéo. Moi, je me prends à... Alors, ça ne veut rien dire, hein, c'est juste pour dire oui, on sait, mais on verra. Moi, je me prends à rêver d'un service Nintendo où tous les jeux Nintendo seraient disponibles, streaming ou abonnement, ça serait pas mal. Et Square Enix dit également qu'ils aimeraient avoir toute leur librairie numérique disponible, enfin, leur librairie de jeux disponible en numérique. Il y a certains jeux dont ils ont perdu le code source, donc ça c'est un petit peu problématique. Mais c'était une époque, c'est une autre époque quoi. Le code source c'était genre il y a 25 ans, 30 ans, tu finissais ton jeu, il était fini, il était sorti et puis tu passais à autre chose. Mais je le dis souvent dans cette émission, mais les gens qui disent il y a trop de services d'abonnement, ça va devenir infernal, machin. À chaque fois, moi je leur dis. Pensez à combien d'argent vous dépensez dans l'année, ou plus simplement, combien de jeux les core gamers, ce qui sont les gens à qui ces services vont s'adresser, achètent chaque année. Moi, généralement, mon estimation, c'est en gros, on va dire un jeu par mois en moyenne sur l'année. Ça ne me paraît pas complètement délirant, évidemment, tout le monde ne fait pas ça. Voilà, t'es d'accord avec moi, merci.
Oui, c'est à peu près ça.
Donc, un jeu par mois, ça fait 70 euros par mois. On va laisser à 60. Ça en fait des services d'abonnement auxquels on peut s'abonner. Pour moi, il n'est pas du tout invraisemblable de dire, je vais avoir deux services d'abonnement. Si on les paye à l'année, c'est peut-être un peu moins cher que les 15 euros ou même peut-être un peu moins cher que 10 euros. Allez, on en a un ou deux par mois et deux autres qui tournent. Et vous avez une offre qui est incroyable de jeux, mais plus de jeux que vous ne pourrez jamais en finir. Et vous payerez quand même plus ou moins la même chose, voire même un peu moins cher. Ou pareil, si vous achetez en plus de ça un ou deux jeux qui ne sont pas accessibles de temps en temps par ces services, c'est pas si cher que ça. Enfin, pour les core gamers, encore une fois, il y a plein de gens qui achètent deux jeux dans l'année et qui sont très contents. Et ces gens-là, c'est pas pour eux que ces services vont être créés ou sont créés. Mais moi, je pense que cette idée que oh là là, ça va faire plein d'abonnements, c'est trop cher. Voyez en fonction du nombre de jeux que vous achetez. Voyez si ça sera vraiment très cher. Moi, je pense que la réponse pour de nombreux auditeurs sera c'est pas si mal. Et si c'est pas le cas, si pour vous c'est pas un bon deal, évidemment on a toujours l'option de les acheter un à un. Mais pour les éditeurs, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des abonnements et des gens qui ont un abonnement qui est reconduit plus ou moins. C'est-à-dire que s'il y a assez de bons jeux, les gens ne vont pas s'emmerder à se désabonner, c'est comme Netflix. Et c'est très intéressant d'avoir un abonnement et donc de l'argent régulièrement, même si c'est un peu moins que de reconvaincre les gens tous les 6 mois de mettre de l'argent dans un jeu à eux. Ça, c'est un acte hyper fort. Il faut une action. C'est compliqué de convaincre quelqu'un. Vas-y, donne-moi 60 euros. Alors que si il te donne 5-10 euros par mois tranquillement, bah, c'est beaucoup plus avantageux pour eux, je pense. D'ailleurs, tout le monde s'y met. Donc.
Moi, de mon côté, il y a des studios, ils peuvent prendre mon argent comme ils veulent. Genre, c'est des projects, voilà, ils me demandent 200 euros, je leur donne 200 euros, il n'y a pas de problème. mais oui, alors après, je ne suis pas sûr que la réaction primaire des gens soit forcément sur le prix, mais sur la multiplication qui fait que bah, je joue à tel jeu sur telle plateforme, bah, mais toi, tu es sur Steam, moi, je suis sur l'Epic, toi, tu es sur GOG, moi, je joue sur Uplay Plus. Comment on fait pour jouer ensemble? Ça, c'est quelque chose que les gens ont encore du mal à cerner.
C'est déjà le cas aujourd'hui avec les jeux, c'est ça. C'est-à-dire que si t'achètes ton jeu, c'est un autre problème ça. Si t'achètes ton jeu, je sais pas, Division 2, tu l'achètes au lieu d'être abonné à Uplay Plus, bah tu vas avoir le même problème que à ce niveau-là. Donc
sinon sur les prix, c'est finalement quand on fait le calcul, c'est pas si cher que ça, même s'il y a régulièrement les soldes et des promotions pour récupérer les jeux, même de plus en plus récents d'ailleurs. Ce qui change, c'est la pratique, c'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter son jeu une fois 70 euros dans le mois, une fois qu'il a le jeu, bon bah il l'a payé, il pourra le terminer. Quelqu'un qui prend son abonnement, qui commence un jeu et puis oh, j'ai pas le temps, j'ai plus de sous, voilà, j'ai eu un déménagement, j'ai eu plein de choses, je peux plus payer mon abonnement, il peut plus finir son jeu. S'il a pas eu le temps de le finir dans le mois, il peut pas finir son expérience qu'il avait commencé pour laquelle il avait payé son abonnement.
Donc c'est
encore des pratiques qui sont un peu différentes.
Et il y a même d'autres problèmes. Est-ce que les DLC ou les extensions sont inclus dans l'abonnement? Parfois oui, ouais. Parfois non. Sur Uplay, ils sont inclus. Chez EA, ils sont pas inclus. Donc tu payes ton DLC en plus, mais tu as payé ton DLC pour un jeu auquel tu n'as plus accès parce que tu n'es plus abonné. Oui, c'est vrai, ça pose des petits soucis comme ça. Mais d'une part, on a toujours l'option d'acheter le jeu à part. Donc c'est juste une option en plus. Et puis si les il y a énormément, il y aura quelques cas où ça sera problématique, mais il y a énormément de cas où de toute façon bah un jeu si tu as pris par exemple, il y a un jeu qui t'intéresse, il coûte 60 euros. L'abonnement au mois, c'est 15 euros. Chez EA, par exemple, sur l'année, c'est 99 euros. Bon, on va dire que tu ne vas pas mettre 30 euros ou 40 euros de plus et que tu vas juste prendre l'équivalent des 60 euros en mois d'abonnement. Bah, ça fait 4 mois. Si tu n'as pas eu le temps de finir ton jeu en 4 mois, oui, il y a des gens pour qui ça ne va pas marcher, ou des cas spécifiques où bah, le jeu, tu vas l'abandonner. Mais d'une part, la plupart des gens, je pense, jouent à un jeu, qu'il l'ait fini ou pas, pendant 1, 2, 3 mois. C'est rare de jouer 4 mois. Enfin, oui, tu peux le ressortir après, mais à ce moment, si tu veux, tu peux te réabonner pour un autre jeu. C'est un système différent, mais l'idée que ça soit hyper négatif, c'est à mon avis, une réflexion à chaud qui n'est pas très poussée. Quoi.
Uplay Plus, qui paraît plus cher que les autres en service, on dirait pour des jeux Ubisoft seulement, qui ont tendance un petit peu à se ressembler un peu tous en ce moment, d'autant que la conférence Ubisoft n'a pas aidé là-dessus.
Tom Clancy's Ubisoft.
Voilà, moi j'ai l'impression d'avoir vu Tom Clancy. En fait, j'ai eu l'impression de voir Ubisoft à la conférence Tom Clancy.
C'est un peu ça. Ouais.
non, mais pas vis-à-vis du prix de Uplay Plus. Quand on prend, par exemple, le dernier Assassin's Creed Odyssey, moi j'ai pris l'édition Gold là avec le Season Pass, avec les extensions. Ça revenait en brut à 80-99 euros. Pour avoir le jeu de base, donc une soixantaine d'heures de jeu si on traîne pas trop, plus les extensions, on peut rajouter 25-30 heures assez facilement. Finalement, sur un jeu qui est suivi sur l'année, bah, 14 euros par mois, je crois que c'est ça le prix de Uplay Plus, c'est quelque chose comme ça. Bah, un jeu et demi, c'est-à-dire que je vais faire entièrement Assassin's Creed, tout le contenu, plus la campagne de The Division 2, eh bien, on y est au prix pour l'année déjà.
Et tu as tous les autres jeux en plus. Donc,
et il y a tous les autres jeux.
Et le truc, c'est que moi, je pense que le Uplay Plus, il y aura une formule d'abonnement à l'année aussi. On verra quand il se lancera, mais ça ne me surprendrait pas. Mais, oui. Mais bon, voilà, c'est mes réflexions. Et oui, dernier point que je fais aussi dans l'article, comme ça vous aurez tout eu ou presque, c'est cette idée que pour les développeurs, ça va être dramatique, et on en avait déjà parlé à l'épisode de l'E3, donc je suis désolé de répéter un petit peu ça. Moi, je suis convaincu que l'argent qui va être dépensé dans le jeu vidéo va continuer à être à peu près équivalent, mais il va être réparti différemment. Et bien sûr qu'il y a des jeux pour qui ces formules vont marcher un peu moins bien, mais pour les développeurs, ça va créer une avenue de revenus de plus, parce qu'il y aura tellement d'abonnements, peut-être qu'il va y avoir une consolidation à un moment, peut-être que ça va transformer l'industrie de cette manière aussi, mais les abonnements vont devoir avoir du contenu. De la même manière que Netflix construit ses propres trucs, enfin, finance, produit ses propres émissions et doit payer pour avoir du contenu d'autres studios, et d'ailleurs les studios qui travaillent là-dessus sont hyper contents généralement de travailler avec Netflix, d'après ce qu'on entend, bah, il y aura des studios, des développeurs qui vont avoir une autre source de revenus, peut-être que 3 mois après ils vont le mettre sur un autre service, que les gens de ce service qui peut-être n'auraient jamais eu l'idée d'essayer ce jeu, ben, ils vont y jeter un coup d'œil, enfin ça redistribue les cartes, mais comme on le disait dans l'épisode de l'E3, l'idée que ça soit complètement destructeur et uniquement destructeur, c'est transformateur. Pour moi, c'est, je pense pas que ça sera destructeur, mais on verra.
Oui, puis au niveau des développeurs, il y avait Tim Schafer de Double Fine qui avait parlé un petit peu du rachat du studio par Microsoft, et il expliquait qu'il y avait le rachat d'un côté, mais il y avait aussi la garantie que les jeux Double Fine soient sur le Game Pass à leur sortie, et que par conséquent, en fait, Microsoft leur avait dit bah, maintenant que vous êtes sur le Game Pass, les objectifs de chiffres, on en a, mais ils sont pas essentiels, et surtout, bah, vous avez le temps de faire votre jeu, parce que de toute manière, les ventes Day One, elles seront pas importantes, parce que ce sera dérisoire par rapport au prix des abonnements. Donc les objectifs, ils sont pas là. Les objectifs, c'est que les gens jouent au jeu et que, de toute manière, le jeu soit fini quand il sort. Et ça va être une autre manière de produire. Et ça peut permettre d'éviter des phases de crunch, parce qu'il faut sortir le jeu à date. Combien on a vu de jeux qui ont changé leur date de sortie l'année dernière parce que Red Dead arrivait et qui se sont dit, bon, bah, si on veut exister, il faut sortir à un autre moment. Sur le Game Pass, ce problème n'existe pas, en fait.
Ouais, ou moins, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas le moment où tu sors et tu dois faire X ventes à tel moment, sinon c'est foutu. Bah, ça va.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ah, évidemment,
il avait convaincu, quoi. C'est ce qu'avait convaincu Tim Schafer de venir chez Microsoft en disant on aura le temps, quoi.
Oui, et aussi, comme beaucoup de studios d'ailleurs, ils étaient peut-être pas dans une position hyper confortable, et Microsoft leur a donné beaucoup d'argent, comme il l'a dit en plaisantant dans sa vidéo. Mais... enfin bon, bref, je suis sûr qu'on en reparlera, on en avait déjà parlé la dernière fois, donc on va pas passer plus de temps là-dessus. GOG Galaxy 2, vous connaissez évidemment Good Old Games, et Good Old Games Galaxy, donc GOG Galaxy, c'est le launcher de Good Old Games, et ben le 2.0 qui devrait être disponible en bêta dans pas trop longtemps, d'après ce qu'on a cru comprendre des développeurs. En fait, il veut réunir toutes les collections de jeux. C'est un peu une bibliothèque qui réunit toutes vos collections de tous vos services, qui est un service qui, à mon sens, est extrêmement nécessaire, c'est-à-dire que vous vous loguez dans vos services, PlayStation Network, Xbox Live, Steam, etc., etc., et il va vous afficher tous vos jeux, et vous pouvez les filtrer, et ils sont assurés que, alors c'est CD Projekt, donc a priori ils sont sérieux sur ce genre de choses, mais ils ont assuré qu'il y avait une politique de vie privée très sérieuse, ça passe par des API, pour, donc c'est contrôlé la manière dont ils vont avoir vos liste de jeux. À terme, ils espèrent faire un service de chat inter-réseau. Ça, à mon avis, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bon, on verra si ça se fait. Mais en tout cas, rien que le fait d'avoir votre collection de jeux réunis en un endroit, combien de fois je me souvenais plus que j'avais un jeu parce que je suis abonné à tel truc ou je l'ai acheté dans des soldes à tel moment. Si je peux avoir un endroit où je peux taper le nom du jeu et voir si je l'ai, ça sera... Non, mais dans quel luxe on vit, franchement. Mais ça sera déjà un service parce qu'avoir une vision globale de tous les jeux et les trucs qui sont offerts avec le PlayStation Plus et le Xbox Live et machin, c'est assez nécessaire, je pense, un service comme ça. Et si GOG ne le fait pas, je pense que Discord risque de s'y mettre aussi. Mais voilà, moi, c'est un service que j'attends avec assez grande impatience. J'espère qu'il fonctionnera.
Oui, moi aussi. J'ai pas mal de questions qui me viennent avec ça. C'est comment sur PC ils vont pouvoir unifier les bibliothèques Xbox. Et alors, Xbox, c'est plus facile. Mais PlayStation, ça me paraît un petit peu plus compliqué. Comment ils vont faire comment ils vont le faire concrètement?
A priori, ils ont les services de login de tous les développeurs, enfin pas les développeurs, les éditeurs, et tu peux te loguer et il y a des API, donc des outils de communication informatique qui font qu'on peut récupérer la liste des jeux de ce login et c'est contrôlé par l'éditeur. Donc normalement c'est assez safe et ça devrait très bien se passer, il suffit qu'ils trouvent des accords avec les éditeurs, enfin je dis il suffit. Ils ont dit ouais ça se passe pas trop mal, on est en communication, moi je pense qu'il y en a avec qui ça se passe mieux que d'autres. Microsoft, je ne serais pas surpris qu'ils disent ouais, pas de problème, allez-y. Sony, à mon avis, ils freinent un petit peu plus des cas de fer, mais à voir.
Oui, et puis il y avait déjà un service comme ça, alors qu'il est en bêta, qui ne fonctionne pas très très bien, mais bon, qui a le mérite d'exister, c'est Playnite, qui est un peu ce système d'unification des bibliothèques sur PC ou des launchers et des listes d'amis et des statistiques sur les jeux. Mais que ce soit GOG qui le fasse. Sachant que c'est GOG ne représente rien en termes de plateforme hein, les diverses plateformes qui existent entre l'Epic Game Store, Steam et tout ça, GOG représente très peu finalement. L'existence de cette unification-là, elle est hyper maligne parce que ça va permettre aussi de ramener des gens sur GOG qui vont se dire moi je peux unifier toutes mes alliés, tous mes jeux, voir mon temps de jeu sur à peu près tous les supports, retrouver tous mes potes en ouvrant un seul fichier et en n'ayant plus besoin de tout ouvrir, tout me loguer tout le temps. Et ils vont se dire j'ouvre GOG Galaxy 2.0, ah tiens, il y a Cyberpunk sur la boutique,
bien sûr.
Un peu moins cher qu'ailleurs, et puis voilà, c'est parti.
Ah ouais, c'est sans doute pour ça qu'ils le font, hein, mais ouais, c'est à voir ce que ça va donner. Je ne serais pas surpris qu'il arrive assez vite.
Il parlait la bêta a commencé, ouais.
Ouais, mais c'est une bêta fermée avec des gens invités. Mais il disait que la bêta ouverte devrait arriver pas trop longtemps après le 3. Un petit mois, quelque chose comme ça, peut-être, à voir. Et le dernier truc que je voulais évoquer à propos de l'E3, c'était le crunch et les discussions autour du crunch. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de développeurs qui parlaient de ce problème dans leur studio. Et évidemment, j'ai trouvé ça très sain qu'ils se préoccupent de la chose. Et ce que je voulais noter, c'est que c'est une évidence, mais la raison pour laquelle ce sujet est venu sur le devant de la scène, c'est évidemment que... Les journalistes d'investigation en ont énormément parlé. On a vu de nombreux sujets, de nombreux articles à ce propos au cours des derniers mois et des deux dernières années, encore plus qu'avant. Et ça a mis un coup de projecteur sur ce problème et ça a forcé les développeurs au moins à en parler. Et je pense que là, on peut honnêtement dire que c'est un sujet que certains commencent à prendre un petit peu plus au sérieux. Et c'est juste pour relever de la qualité du travail qu'ont fait les journalistes dans leur ensemble, les journalistes de jeux vidéo, parce que il y a eu des problèmes dans le monde du jeu vidéo et dans le monde du journalisme sur ces dernières années. C'est une industrie qui est jeune, qui a mis du temps à trouver sa position. Et je ne vais même pas forcément évoquer la question du Gamergate où les critiques étaient à mon sens totalement usurpées, mais la qualité du travail journalistique qu'on a vu a été vraiment amenée à des actions, des prises de conscience importantes. Et je voulais juste le relever parce que souvent on a tendance à se dire « Oh, le jeu vidéo, machin, c'est des... » les joueurs sont parfois assez critiques avec les journalistes de jeux vidéo et je pense que c'est totalement injuste et usurpé. Alors évidemment, il y a différents journalistes, différents types de publications, mais dans l'ensemble, on a vu quelque chose se passer ces deux dernières années qui est, je vais pas dire que ça s'est jamais produit avant, hein, faut pas, je suis pas Donald Trump, faut pas exagérer, mais c'est quand même tout à fait louable et même, je dirais, applaudable. on peut féliciter l'industrie dans son ensemble et les journalistes qui ont fait ça spécifiquement. Donc voilà, je voulais juste le noter.
Et puis ça relève d'une dynamique un peu plus large d'ailleurs, parce que ces articles sortent au moment où des syndicats se montent du côté des travailleurs aussi, avec le Game Workers Unite, qui fait remonter aussi le type d'information aux journalistes, dont Jason Schreier, qui s'occupe beaucoup de ça, qui fait remonter beaucoup d'informations. Donc il y a d'un côté la presse qui parle de ces informations-là, de l'autre côté les travailleurs qui commencent à se dire ça fait 30 ans qu'on travaille comme ça, il serait peut-être temps de se poser les questions de pourquoi il y a autant de burn-out, pourquoi il y a autant de turnover, parce qu'il faut savoir dans les studios, c'est rare de faire plus de 3 ou 4 ans dans un même studio et même de passer le cap des 20 ans de carrière dans le jeu vidéo. Les gens qui sont là depuis 20 ou 30 ans, ils sont très rares. En général, il y en a beaucoup qui font 10 ans et puis qui arrêtent parce qu'ils sont séchés. Ils ne peuvent plus continuer. C'est des choses qui évoluent ensemble. Alors, il y a beaucoup de discours pour l'instant du côté des éditeurs. Oui, on va changer. On l'a vu avec Riot Games qui a dit oui, on va faire de l'inclusivité. Puis 3 mois après, boum, ils retombent dedans. Notamment avec la grève qui a eu lieu, qui est un marqueur important aussi, parce que la grève dans les studios de jeux vidéo américains, ils n'ont pas la pratique de la grève. C'est pas en France où on a l'habitude de manifester nos désaccords par des grèves. Ça se fait pas du tout aux États-Unis, donc c'est important que ça arrive. Ils ont ces choses-là, et puis peut-être aussi en France, on a des syndicats qui se forment. Alors pour l'instant, il y a beaucoup de forces ouvrières qui travaillent dessus. Il y avait eu la grève à Eugène Systèmes il y a quelque temps, et puis les articles qu'ils ont sortis sur Quantic Dream aussi,
dont on a
pas mal parlé. Alors ça évolue doucement. En France, par exemple, on a besoin d'une convention collective qui est dédiée à ça, qui n'existe pas encore, mais ça évolue, on en parle beaucoup et c'est plutôt bien parce que on le savait tous, mais personne n'en parlait et donc c'est bien que maintenant on en parle.
Et d'ailleurs, Schreier a sorti un article sur Black Ops 4 et la manière dont il a été conçu. Il y a plein de choses intéressantes dedans, mais il met encore un coup de projecteur sur un aspect dont on n'avait pas forcément conscience, qui était un petit peu évoqué ici et là, mais il parle surtout des contracteurs, c'est-à-dire que ce sont des sociétés externes qui ne sont pas la société elle-même, c'est pas Treyarch en l'occurrence, mais des sociétés externes et la manière dont sont traités ces contracteurs. Et il y a des choses absolument horribles dont il parle dans son article, je vous encourage à aller le regarder, mais c'est cet aspect, par exemple, on n'y pensait pas. Et sans les journalistes, la manière dont sont traités les contracteurs, qui ne sont pas la société elle-même, parfois la société dit oui, nos travailleurs, ils font ci et ça et ça, et ils n'incluent pas dans cette réflexion les gens qui sont externes. Et il y a des trucs, enfin bon, je ne vais pas partir dans ce débat, mais une chose que Schreier disait qui était hyper intéressante pour revenir à la question des médias, c'était 6 mois, parce que certains vont dire oui, mais regarde, pour un Schreier et un machin et un truc, combien il y en a qui font d'autres choses. Schreier disait, mais 6 mois, c'est des articles d'investigation qui prennent des mois à faire. Sans toute l'équipe de Kotaku, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Donc, c'est vraiment des articles qui sont écrits, pas qui sont écrits par Kotaku, mais qui sont rendus possibles grâce à l'ensemble de la rédaction de Kotaku. Ce n'est pas juste moi. Et j'ai trouvé ça très intéressant.
C'est le principe qu'on a appliqué chez jeuxvideo.com pour permettre aux journalistes, donc par exemple Epion qui avait fait un gros article sur le rapprochement entre Microsoft et Nintendo, pour pouvoir que les journalistes puissent faire ce genre d'article, et bien c'est la raison même d'exister de l'équipe qui est dédiée aux news, libérer du temps pour pouvoir faire ce genre de papier là. Alors nous, à notre échelle, moi si on me pose la question, je vais dire moi j'écris des news, ça prend 3 minutes à lire, c'est pas du grand journalisme d'investigation, c'est du relais d'information, de l'information très pratique, mais que ce soit nous qui le fassions, ça permet à des gens d'aller enquêter, de prendre des mois pour faire ce genre d'enquête. Et oui, c'est important de rappeler que l'ensemble des rédactions, c'est ça, c'est pas Jason Schreier tout seul qui a dit moi j'arrête de travailler, je vais faire une enquête. Ouais. Il faut que ça soit permis par un environnement de travail qui laisse le temps libre pour faire ça.
On est d'accord, ouais. Bon, donc voilà pour le petit topo sur les suites de l'E3. On va conclure avec peut-être des jeux auxquels j'ai un petit peu joué. Cadence of Hyrule est sorti il y a peut-être une semaine et demie maintenant. Je me suis précipité dessus, évidemment. Très bonne surprise, franchement. Franchement, pour ceux qui ne savent pas, c'est la version Zelda de Crypt of the NecroDancer. J'ai été surpris, comme beaucoup, du fait que ça ne soit pas un reskin de Crypt of the NecroDancer en mode Zelda, mais vraiment un jeu Zelda qui fonctionne dans les mécaniques de Crypt of the NecroDancer. Et c'était une très, très belle surprise. Je me suis bien fait rétablir au début, mais il est vraiment sympa. Alors certains disent qu'il est un peu trop court, moi je suis pas arrivé au bout. C'est un jeu qui est, pour moi c'était un jeu pur plaisir quoi. C'était vraiment, oh c'est cool, on fait ça, c'était, ça m'a amené un sourire enfantin et un vrai plaisir. Donc j'ai été très agréablement
surpris. Nintendo choisit, je trouve très très bien les studios à qui ils confient leur licence. Quand ils avaient confié à l'équipe italienne le fait de faire Mario plus les lapins crétins pour faire un tactical, on a tous pourquoi faire, et puis c'était un très bon jeu, une très bonne porte d'accès pour ce type-là. Crypt of the NecroDancer et la version Cadence of Hyrule fonctionnent très bien aussi, puis en plus ils ont fait appel au génie Danny Baranowski pour la musique qui je pense a attendu toute sa vie de pouvoir remixer Zelda et qui était visiblement très content de le faire, et ça fonctionne très bien. Moi je suis incapable de jouer à ça, je suis très mauvais, mais par contre je connais déjà la BO par cœur.
Je pense que on est à peu près sur la même longueur d'onde sur ce truc. La BO fait partie des attraits du jeu. Un autre truc qui est sorti, sur lequel je me suis précipité aussi, c'est Bloodstained, le Igavania que j'ai kickstarté il y a quoi, 3 ans maintenant ? Peut-être même plus, je ne sais plus.
Oh oui, il y a bien trop ou 4 ans, oui.
Au moins, ouais. Et qui est enfin sorti. Alors, il est sorti sur PlayStation et PC une semaine avant la sortie Switch. Et évidemment, on se demandait peut-être pourquoi. Et bien, en fait, non, on ne se demande pas pourquoi. C'est évidemment parce que la version Switch avait de gros soucis. Mais vous savez quoi ? Alors, oui, la version Switch, elle est hyper moche, mais hyper moche. Elle est pas hyper performante au niveau technique, genre FPS ou ça. Enfin, je joue sur un écran un petit peu impressionnant aussi. Je joue sur un gros écran 4K, donc forcément ça aide pas. Mais c'est comment dire, c'est pas beau.
C'est vilain.
C'est vilain, voilà. C'est vraiment vilain. Mais j'y prends quand même énormément de plaisir. C'est vraiment un jeu qui est peut-être pas un jeu qui est pour tout le monde, mais il répond exactement aux promesses qu'il avait fait.
Il avait fait la promesse d'un Castlevania-like, et c'est ce qu'on a eu.
exactement. Et c'est hyper calqué sur la formule Castlevania Symphony of the Night. Il s'en cache pas, hein. Il s'appelle Bloodstained, quelque chose of the Night
Ritual of the Night,
voilà. Mais il y a plein de trucs hyper intéressants. Il y a un système d'upgrade avec les shards, des éclats de cristaux qui vont donner des capacités différentes. Et il y en a plein, c'est beaucoup plus moderne dans les possibilités que ça t'offre au niveau du gameplay. Au niveau vraiment de la mécanique de base, c'est complètement Castlevania. L'histoire est un petit peu débile, mais bon, c'est pile, comme je le disais, il a tenu la promesse de ce qu'il avait fait dans son Kickstarter. Les gens qui sont pas fans de ça, bah, ils vont pas forcément être intéressés. Mais moi, je suis pleinement satisfait, même avec la mocheté de la version Switch. Évidemment, si c'était pas la Switch et que je pouvais pas la prendre avec moi, c'est moins moche en version sur le petit écran, hein, bien sûr. Mais si je pouvais pas la prendre avec moi, bah, et je l'aurais pris sur une plateforme qui est un petit peu plus potable. Mais même là, ça me gêne pas trop. Je sais que c'est pas un jeu que je vais... Enfin, je sais dans quelles conditions il a été fait. Je sais que c'est un truc Kickstarter. Donc, je m'attends pas... C'est pas, je sais pas, Blizzard ou Nintendo qui l'a sorti, quoi. Donc, voilà, je leur en tiens pas trop rigueur. Ils ont dit qu'ils vont travailler sur la version Switch pour en régler les problèmes. En avis, ils vont pas pouvoir mettre des textures un petit peu moins moches. Donc, ça sera juste pour des questions de FPS. Ça sera déjà pas mal. Mais je suis hyper content de l'avoir kickstarté et de l'avoir. Donc voilà, j'ai joué quelques heures, peut-être une, je sais pas, 5-6 heures, quelque chose comme ça. Et je suis très content. Donc vraiment satisfait de Bloodstained.
Oui, ça me fait penser que finalement, ils ont vraiment réussi leur coup, parce que je pense que t'étais le vrai cœur de cible des gens qui avaient joué à Castlevania, à ces Castlevania-là, et qui attendaient ça. Je ne suis pas sûr qu'ils cherchaient à atteindre un autre public que celui qui attendait vraiment un Castlevania à l'ancienne, puisque c'est vrai, Castlevania, on n'en a plus.
ça fait tellement longtemps.
C'est tellement longtemps, et ça, ils ont très bien réussi leur coup malgré les défauts, donc je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait.
Ouais. Tout à fait, c'est juste ce qu'il fallait. Il est quand même, c'est un vrai jeu, il est long, il est solide, il est bien conçu, il est rigide parce que c'est comme ça que c'était à l'époque, mais c'est pas une arnaque, quoi. Au-delà du fait que la version Switch techniquement est pas top, mais elle est jouable. Moi j'y joue et je trouve ça moche, mais ça ne m'empêche pas d'y jouer. Donc non, c'est vraiment, moi je trouve vraiment convaincant, donc bref. Donc oui, comme je disais, c'est vilain, mais j'aime bien.
Ouais, c'est, voilà,
c'est vilain, mais j'aime bien. Je trouve que c'est un bon. S'ils pouvaient mettre ça sur la boîte de la version Switch, notre Patrick, c'est vilain, mais j'aime bien. Donc voilà, pour les jeux, il y a des jeux auxquels tu as joué, à part Ori. Tu m'as dit que tu faisais ton backlog.
Oui, je fais mon backlog et c'est un peu laborieux, je me force un peu parce que je suis en train de faire Mass Effect Andromeda, que je trouve extrêmement pénible à jouer. c'est très répétitif dans les mécaniques et les quêtes. Et le pire là-dedans, je crois que c'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu très acceptable, les combats sont très agréables à jouer, les quêtes sont pas très mal écrites. Mais l'ensemble, et c'est un très mauvais Mass Effect, ça c'est là-dessus, je reviendrai pas sur ce point-là, mais oui, c'est un jeu qui est très pénible à jouer, et pour autant, je continue à le faire parce que j'arrive pas à me dire que c'est un mauvais jeu, et c'est assez paradoxal, et j'ai du mal à le lâcher, même s'il est très long. Et donc,
mais c'est marrant, qu'est-ce qui te fait y revenir en fait?
Il y a toujours un petit thème musical qui rappelle Mass Effect, le petit combat au bout de 10 heures de jeu pénible avec des quêtes un peu nulles, où il y a un combat hyper intéressant, et il y a toujours cette dimension de relation entre les personnages, où on va leur chercher des trucs pour se faire une soirée ciné dans le vaisseau, ce genre de choses. Il y a toujours un fond d'ambiance Mass Effect et qui me fait dire bon, allez, on va quand même aller au bout, parce que il y a peut-être quelque chose à la fin. Et je récupère de l'autre côté Watch Dogs 2. J'avais beaucoup aimé, moi, le premier, malgré tout. j'avais beaucoup apprécié. Et là, je reviens quelques années après sur Watch Dogs 2, qui est vraiment le dernier jeu de l'ancienne ère Ubisoft. L'ancienne manière de faire des mondes ouverts d'Ubisoft, avec des icônes partout, des quêtes... En veux-tu, en voilà, un scénario pas forcément toujours très intéressant. Il a amorcé
j'aime
la
délicatesse dans ta description.
Il a amorcé la transition vers ce qu'allaient être les prochains Assassin's Creed dans les manières d'aborder les jeux. Et je le trouve, pour le coup, plutôt bien écrit dans les quêtes secondaires et les dialogues. Il y a beaucoup plus de liberté de ton, ce qui se traduit par un tas d'insultes beaucoup plus présentes que dans les anciens jeux aussi. Mais voilà, c'est beaucoup plus naturel. Il y a des références dans des discussions entre les personnages qui me parlent bien, mais les mécaniques de jeu, voilà, on voit que Ubisoft a eu raison de changer la manière de faire les jeux. Ils ont gardé un système, voilà, ce genre de jeu service et de monde ouvert avec des activités, mais ils l'abordent différemment, et en fait on s'en rend vraiment compte quand on revient sur les anciens jeux. Et du coup, bah, je prends quand même pas mal de plaisir à parcourir le Los Angeles de... Le San Francisco, pardon. Le San Francisco de Watch Dogs 2.
Ok, bah écoute, Watch Dogs 2, moi je l'avais acheté, tu vois, c'est pile le genre de jeu pour lequel j'aurais bien aimé avoir un abonnement à Uplay Plus, parce que je l'ai acheté, j'ai joué 3 heures et je me suis dit, ouais non, c'est pas pour moi. donc merci, au revoir. Donc voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Quelques petites news sur lesquelles on va passer assez rapidement. D'abord, EA a mis en ligne la démo complète de Star Wars Jedi Fallen Order en vidéo uniquement. Bien sûr, et j'avoue que j'ai été très déçu par la section qu'on avait vue à l'E3, ou même c'était peut-être une autre partie. Là, je me suis dit, bah, Ok, pourquoi pas en fait. Ça m'a complètement. Je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas fait, ils n'ont pas montré ça. Même si c'est 25 minutes, à la limite, tu le réduis en 20 minutes, mais un truc bien long qui te montre toutes les possibilités du jeu. Là, je me dis, ok, pourquoi pas.
Bah, et on a eu l'explication en même temps qu'ils ont diffusé ce trailer-là. Genre, j'ai de la chance de m'en souvenir parce que c'est moi qui avais traité la vidéo à ce moment-là. En fait, ils ont expliqué que quand ils avaient mis en ligne cette version étendue de la démo, que quand ça avait été au moment de l'EA Play, ils n'en avaient monté que 13 minutes parce que 13 minutes, c'était centré sur le sabre laser et les mouvements du personnage pour que ce soit en fait facilement retranscriptible par la presse et les joueurs qui vont le regarder en disant bon, bah, voilà, on se concentre sur le sabre laser, quelques coups de combat, des petits sauts, des coups de pouvoir. Parce que 25 minutes, c'était trop à montrer. Il y avait trop d'informations en même temps dans la démo de 25 minutes et que pour l'EA Play, c'était pas calibré correctement. Mmh. Et c'est pour ça que cette démo qu'on a vue, c'était ce qu'ont vu les gens sur place. Mais les gens l'ont vu sur place avec les explications des équipes qui ont pu détailler un petit peu toutes les séquences qui ont été montrées. Il y avait cette fameuse idée du TBTT qui était montrée, on savait pas à quoi elle servait. Bah, les journalistes l'avaient vu sur place.
Ouais.
Que c'était quelque chose, un moment pilotable, un peu rail shooter. Donc en fait, voilà, ils avaient juste voulu calibrer quelque chose de regardable pendant l'événement et d'avoir quelque chose de plus long, mais avec des détails expliqués après. Et puis finalement, ils se sont dit, bon, bah, maintenant que tout ça s'est fait, que les aperçus sont sortis et qu'ils sont un peu tièdes, on va peut-être tout montrer.
Ouais, c'est ça. Je pense que ouais, bah, c'était bon, ça arrive, hein, les mauvais calculs. C'est difficile de juger avant que de l'avoir vraiment fait. Et là, je pense qu'ils n'ont pas fait le bon, mais bon.
Quoi montrer, c'est un enfer pour toutes les équipes, d'autant que ça peut bouger jusqu'à deux jours d'une conférence. Enfin,
non, et puis en plus, toi, t'as tellement le nez dedans que tu sais plus ce que tu vois, quoi. Donc le juger avec objectivité ou avec neutralité, on va dire, c'est compliqué, c'est vraiment dur.
Ah, l'effet tunnel est un enfer pour tout le monde.
Ubisoft a expliqué comment ils avaient créé les nombreux visages de Watch Dogs Légion. On se posait la question pendant le 3. Alors pour les voix, c'est effectivement ce qu'on imaginait, c'est-à-dire des modulations sur les 20 voix qu'ils ont enregistrées. Mais pour les visages, c'est hyper intéressant. Ils ont fait bon, de la photogrammétrie, à la limite, ça c'est pas important, mais ils ont pris plein de visages et ils composent les visages du jeu en prenant des parties des visages qu'ils ont. Donc ils ont des milliers de combinaisons différentes, mais c'est intéressant d'avoir la réponse à cette question. Comment ils vont faire autant de visages différents? Et ben c'est en utilisant, alors ils ne sont pas rentrés dans les détails, mais j'imagine les yeux d'un tel, la bouche d'un tel, le nez d'un tel, et ça fait un nouveau visage.
C'est ce qu'on retrouve, toi qui parcours Twitter, tu es peut-être déjà tombé dessus, sur ces faux politiques qui n'existent pas.
Ouais.
Et donc on met sur des affiches en fait, qui ont été créées, qui n'existent pas du tout. Et
bah, cette personne n'existe pas. Ouais. Mais c'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait la même chose parce que ceux-là sont composés par des intelligences artificielles à partir de rien. Dans Watch Dogs Légion, ils ont visiblement photographié des visages et ils recomposent des nouveaux visages à partir des éléments de ces visages qu'ils ont photographiés. Donc c'est pas créé par une IA à partir de rien. Donc c'est un petit peu différent.
Il y a cette idée d'utiliser des banques de données pour pouvoir recréer des choses cohérentes. Et là où c'est intéressant, c'est que... moi, si on met les yeux, je sais pas, je vais dire de Carage, qui est mon colocataire en même temps, si on met ses yeux sur moi, ça marchera pas du tout.
Oui, j'imagine qu'il y a un petit peu de... Ouais.
C'est intéressant et je pense que le post-mortem d'un jeu comme Watch Dogs Légion sera à lire absolument parce que ça peut être hyper intéressant.
C'est sûr, ouais. Et je me demande si on va avoir des visages un petit peu étranges parce qu'ils ont laissé passer une composition bizarre dans leur liste, mais bon. Quoi d'autre ? Amazon Game Studios se, entre guillemets, réorganise. Alors, c'était potentiellement l'un des énormes acteurs des années à venir parce qu'Amazon, bah, ils font pas les choses à moitié et ils se lançaient dans le développement de jeux. Et ben, ils avaient sorti un jeu, je sais même plus comment il s'appelait, mais ils l'ont retiré. J'y avais joué, c'était un truc calibré pour l'e-sport, mais tellement calibré qu'il y avait rien de naturel dans le truc. Mais surtout, donc, ils ont licencié, je crois, quelques dizaines de personnes ou licenciés. Ils leur ont dit, il faut trouver un autre boulot chez Amazon et sinon, bah, au revoir. Mais surtout, ça veut dire que, oui, ils se concentrent sur les jeux qui sont déjà en développement, ils en ont un ou deux, mais c'est surtout que bah, ça ne va pas aussi bien qu'on aurait pu le penser chez Amazon Game Studio. Et c'était, moi, je ne pensais pas c'est pas qu'ils se sont plantés, mais clairement, ce n'est pas le démarrage en fanfare. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'ils se sont lancés Bon, il semblerait que ça soit pas aussi facile qu'ils le pensaient, hein, de faire des jeux.
Non, pas facile du tout. Et comme quoi, avoir la puissance financière fait pas tout. il faut avoir le savoir-faire. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui étaient arrivés chez Amazon quand ils ont vraiment rendu actif Amazon Game Studio, qui a presque 5-6 ans déjà d'existence en tant qu'entité, mais qui travaillait pas
déjà
encore. Et oui, je crois que c'est 2012. Août 2012, la création de Amazon Game Studio.
Mais il y avait Kim Swift qui les avait rejoints, non?
Voilà, il y avait Kim Swift et puis qui est reparti déjà, qui a fait qu'un passage. Oui, il y avait eu l'annulation de Breakaway il y a 2 ans.
C'est ça, oui, Breakaway, voilà, le jeu auquel ils avaient joué. Qui était franchement même pas si mauvais, mais un peu fade. Quoi.
Non, ça fonctionnait pas, ils n'avaient pas réussi à faire la communication qu'ils voulaient, ils n'avaient pas réussi à mettre les features qu'ils voulaient, ça arrivait trop tard, enfin, il n'y a rien qu'à... Il n'y a pas grand-chose qui allait bien. Et finalement, là, ils se rendent compte que d'avoir mis le nez un peu dans tout, partout, tout le temps, sans avoir focus sur des premiers projets qu'il va falloir mener correctement, ça leur coûte cher aujourd'hui. Ils ont New World et Crucible, je crois, qui sont en développement. Est-ce qu'on va les voir un jour? C'est pas encore gagné, mais je pense que c'est malheureusement la bonne décision quand on est un géant comme ça, parce que je crois que sur les derniers classements, ils sont devenus l'entreprise la plus puissante du monde, quelque chose comme ça. C'est important de se recentrer sur tes premiers projets, et quand les premiers projets sortent, de faire très bonne impression, parce que sinon c'est fichu.
Ouais, c'est très possible, ouais. Bon, on va passer les autres un petit peu plus rapidement. Tim Sweeney de Epic a dit ce que moi je dis depuis des mois, donc je voulais le mentionner. Il a dit le problème avec l'industrie des stores sur PC, c'est que Steam est tellement puissant que le seul moyen de casser le monopole, c'est de faire des exclusifs. Et on sait que les gens les aiment pas, mais il n'y a pas d'autre moyen. Rien d'autre ne réussira à casser le monopole de Steam. Et le monopole de Steam a, sur le long terme, un effet négatif. Donc, voilà, c'est juste qu'il le dit, évidemment, il ne va pas dire qu'il fait des erreurs et que c'est qu'il est un agent du mal avec ses exclusifs, mais c'est intéressant de le voir verbaliser la chose de cette manière. PUBG se bouge enfin et sort, enfin PUBG Corp, la société qui développe PUBG, a créé un nouveau studio pour créer un jeu qui serait un truc un petit peu plus solo dans l'univers de PUBG. Pourquoi pas? Mais c'est intéressant de voir que le jeu qui était le plus gros jeu du monde, entre guillemets, pendant quelques temps, enfin, ils se mettent à se bouger pour faire d'autres choses. On a des jeux mobiles qui ont été annoncés ou sont arrivés. Dr. Mario va arriver ce mois-ci, en juillet. Harry Potter Wizards Unite est déjà disponible. Il fait un moins gros démarrage que Pokémon Go, mais bon, il est là. Auto Chess, ou plutôt Dota Underworld, qui est l'Auto Chess de Valve, est disponible sur mobile également. Moi, j'ai commencé à jouer, je me suis endormi, donc passé à autre chose.
Moi, j'ai rien compris. C'est simple, je n'ai rien compris à comment fonctionne le Battle Chess.
En fait, le tutoriel n'a pas l'air hyper captivant, quoi. Mais bon, Pokémon Masters, un jeu mobile Pokémon fait par Game Freak, on va dire entre guillemets Nintendo, qui va arriver, je crois, cette année. Je crois que c'est cette année ou cet été, peut-être, je ne sais plus. Et il y a un Tetris. Cette année. Et il y a un Tetris Battle Royale qui arrive sur Android et iOS, qui est un petit peu Tetris 99. Tu nous as déjà dit un mot sur Dota Underworld, sur tous ces sujets que je viens d'évoquer. Quelque chose qui te parle particulièrement?
Le Harry Potter, dont j'ai mis un peu le nez dedans. Et je ne comprends pas, vraiment, comment après Pokémon Go, qui n'était pas très profond dans les mécaniques, mais qui était, je trouve, très juste dans son équilibrage entre le gratuit et ce qu'on pouvait acheter, là, je trouve que dans le Wizard Unite, le déséquilibre est immense. Pour quelqu'un qui ne veut pas mettre d'argent, c'est le grind est terrible, mais vraiment, c'est infini. Et je le trouve beaucoup moins malin et très déséquilibré sur ce point-là. Et je pense que s'ils équilibrent pas ça très vite, je suis pas sûr que le jeu fonctionne très longtemps.
Si je ne m'abuse, c'est WB, c'est la Warner Bros. Qui a développé le jeu avec la technologie de Niantic, voilà. Assisté par Niantic, mais le jeu est développé par Warner Bros. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça, ouais. Bon, malheureusement, du coup. Et pour finir, parallèle aux jeux vidéo, Sony a annoncé qu'ils allaient faire une série télé basée sur Final Fantasy, c'est le 14, c'est ça?
Donc sur le MMO.
C'est ça, sur le MMO.
Des Orzea.
Ouais, voilà. Donc sur le MMO de Final Fantasy, bon moi j'y ai pas joué, enfin si j'y ai joué un tout petit peu, mais c'est pas mon truc. Mais pourquoi pas une série télé Final Fantasy, ok, ça pourrait être sympa. Par contre, on a vu un trailer qui a leaké sur Monster Hunter, le film dirigé par. Comment il s'appelle, Anderson? Pardon?
J'ai plus le nom du réalisateur, je vois son
visage. Paul W.S. Anderson. Et il y a Mila Jovovich, c'est celui qui est derrière la série des films Resident Evil.
Resident Evil,
mais, tu sais, moi je les aime bien. Alors évidemment, c'est pas du tout Resident Evil, mais c'est des films marrants. À chaque fois, je le regarde avec plaisir. C'est un bon popcorn, c'est débile, c'est pas prétentieux, et pourquoi pas. J'ai l'impression que le Monster Hunter, ça prend un petit peu la même direction. C'est débile, c'est pas prétentieux, pourquoi pas. Mais si vous attendez, en même temps, je connais un tout petit peu, je connais pas très bien le monde de Monster Hunter, mais est-ce qu'il est possible de faire un film vraiment sérieux ou cohérent avec ça? En même temps, on fait des films avec tout aujourd'hui, donc peut-être.
Non, il a un peu le syndrome Warcraft qui est quand on l'adapte en live action, c'est-à-dire avec des acteurs, tout de suite le design et les armures, c'est très cirque, ça fait très art du spectacle et c'est très compliqué à adapter. Maintenant, j'ai quand même un peu peur de ce que j'ai vu.
Ouais, on est d'accord. Bon, écoute, sur cette joyeuse conclusion, on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cet épisode.
Je t'en prie, merci de l'invitation.
Ça m'a fait très plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, justement? Tu as un compte Twitter, si je ne m'abuse?
J'ai un compte Twitter, @malodelic, qui est le même pseudo que j'utilise sur jeuxvideo.com, sur Discord aussi, pas mal. Et puis voilà, c'est à peu près les deux que j'utilise. Après, j'ai un Facebook, mais il est plutôt restreint.
D'accord. Écoute, je mettrai le lien vers ton Twitter dans les notes de l'émission. Merci d'avoir été avec nous.
Merci
pour
beaucoup.
Ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Alors, j'ai tenu 7 heures avec, même un petit peu plus, avec mon dos qui commence à me faire un petit peu mal. Donc, je vais aller m'allonger. Et c'est évidemment l'ironie des vacances, puisque je me suis pété le dos à quelques temps. Alors, ce n'est pas encore tout à fait. On va dire à 2 semaines des vacances, mais je vais prendre pour la première fois depuis, je sais pas, 5 ans, depuis que je suis professionnel podcasteur, c'est certain, mais même depuis plus longtemps, parce qu'avant, même quand j'avais des vacances, je faisais quand même les podcasts, donc j'avais pas des vraies vacances. Là, je vais prendre des vraies vacances, un vrai break entre mi-juillet et mi-août. Et donc, ça veut dire pas d'émission pour le rendez-vous jeu. On fera quand même des rendez-vous tech avec des spéciaux, des invités, tout ça. Mais le rendez-vous jeu, sans doute pas d'émission. On va voir si je fais, parce que là, ça tombe sur le prochain. Peut-être que je ferai à la fin de la semaine d'avant un petit tout seul pour vous dire ce qui se passe et puis ce que j'en pense. Mais je suis même pas sûr. Donc, il va y avoir quelques semaines sans rendez-vous jeu, sans doute. J'espère que vous allez passer un bon été et que vous m'excuserez cette courte absence pendant l'été. Après 5 ans quasiment sans interruption, je crois. Les vacances que je prenais avant, c'était genre 2 semaines, mais comme je dois commencer à préparer la deuxième semaine, c'est vraiment très très court. Mais 5 ans qu'on fait l'émission, bientôt, d'ailleurs on va fêter les 5 ans, octobre prochain. C'est déjà 5 ans, mais donc sans interruption, je vais me prendre des petites vacances. J'espère que le dos, c'est vraiment le moment où le corps dit non, mais là, Patrick, faut s'arrêter. Donc, je vais le faire, même si j'avais pris la décision avant. Je vous remercie de nous avoir écoutés. On verra s'il y en a un petit avant la pause. Et dans tous les cas, on reviendra au plus tard pour la Gamescom, parce que là, il n'y a pas. Quand il faut. Donc, on sera là pour la Gamescom. Merci de nous avoir écoutés. Et bon été si je vous revois pas, ou si je vous entends pas, ou si vous ne m'écoutez pas, et à très très bientôt. Plein de bises à tous. Ciao ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.